billet politique, Frédéric Seuil, c'est fait. On connaît désormais tous les candidats pour le deuxième tour des élections municipales. Les listes définitives ont été déposées jusqu'à hier soir, 18h, en préfecture. On peut donc analyser les stratégies d'alliance ville par ville. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a des surprises.
Oui, comme à Nîmes, dans la capitale du Gard, la tête de liste d'Europe Écologie Les Verts se désiste au profit, tenez-vous bien, de La République En Marche. Il y a de quoi être surpris quand on entend au niveau national les discours des Verts contre la présidence d'Emmanuel Macron. Mais le cœur des municipalités a ses raisons que la raison des partis ne connaît point. Au-delà de cet exemple surprenant mais isolé, ce qui est significatif, c'est que les alliances se font à géométrie variable. Il y a presque autant de stratégies que de villes. Prenez par exemple le PS et les Verts. Traditionnellement, les deux mouvements se retrouvent au second tour des municipales de manière quasi automatique. Eh bien, rien de tout cela cette fois. La fusion des listes roses et vertes fonctionne à Nantes, Paris, Rennes, mais la rupture est assumée à Lille ou à Strasbourg. De même, pour ce second tour, il est intéressant d'observer le choix des candidats de La République En Marche. Ils se désistent dans des villes gagnables par le Rassemblement National, comme à Perpignan. Mais ailleurs, c'est beaucoup moins clair. C'est le maintien, par exemple, au deuxième tour, qui est choisi à Paris et à Besançon. Dans d'autres villes, c'est une alliance avec la droite, avec les Républicains, qui a été décidée in extremis hier soir. À Strasbourg, fusion des listes LR et LREM, donc, de même qu'à Bordeaux et à Clermont-Ferrand. Bref, le mouvement d'Emmanuel Macron, qui voulait dépasser le clivage gauche-droite, est tout de même obligé ici de s'y plier. Voilà pourquoi ce scrutin, qui aura lieu le 28 juin prochain, est assez atypique.
Et il règne, Frédéric, une certaine imprévisibilité du jeu politique.
Oui, dans la mesure où il n'existe plus d'automatisme, plus de consignes nationales des partis. Alors bien sûr, les élections municipales ont toujours été l'occasion de bâtir des alliances à contre-courant en fonction des enjeux locaux ou des affinités personnelles. Mais ce qui est d'habitude l'exception est cette fois la règle. Chacun fait ce qui lui plaît. Parfois, à l'intérieur de la même liste, vous avez d'ailleurs des candidats qui font des choix différents pour le second tour. Comment l'expliquer? C'est naturellement lié à la perte d'influence des partis politiques. Il est révolu le temps où vous pouviez décider depuis Paris, depuis la rue de Solferino ou la rue Vaugirard, si le candidat d'une sous-préfecture à 800 km de là devait se maintenir ou pas. Les appareils politiques sont plus décriés qu'en temps, ils sont moins respectés, ils possèdent d'ailleurs moins de moyens de rétorsion contre les récalcitrants. Jadis, ils pouvaient faire miroiter des postes, des investitures, des responsabilités nationales, voire des logements ou des subventions. Désormais, ils ne peuvent que timidement donner leur avis et le candidat social local se fait un plaisir de le bafouer, cet avis, pour montrer qu'il est libre, qu'il n'est pas dans la main des apparatchiks. Selon le vocabulaire consacré, l'esprit anti-système se décline aussi localement. Et puis, cela tient à l'émergence de la société civile en politique, des listes citoyennes que l'on a vu fleurir un peu partout lors de ces municipales. Il est évidemment beaucoup plus difficile de contraindre quelqu'un qui ne veut pas faire carrière en politique. Et d'ailleurs, c'est sans doute une bonne chose.
Au risque cependant de rendre la politique illisible.
Oui, c'est aussi le danger. Les sciences politiques ont vu émerger ces dernières décennies le concept de volatilité des électeurs, autrement dit le fait de voter un jour à gauche, l'autre jour à droite, puis de s'abstenir. Eh bien voici la volatilité des candidats. Tout est possible ou presque, et donc en choisissant une liste au premier tour, vous ne savez pas vraiment ce que va devenir votre voix, avec qui elle va être négociée. Alors dans le langage optimiste et poli, on peut appeler ça du pragmatisme électoral, mais c'est aussi la porte ouverte au marchandage décomplexé, puisque les structures collectives sont décrédibilisées, puisque les idéologies sont remisées au grenier, alors il n'y a aucun obstacle à des alliances entre des programmes rigoureusement contradictoires, aucun frein à des arrangements de circonstances pour obtenir les postes au détriment des projets, une lutte des places sur fond de valse des étiquettes, ce qui, avouons-le, ne correspond pas vraiment à l'idée que l'on se fait de la politique nouvelle façon.
Merci beaucoup Frédéric pour ce billet politique que l'on retrouve sur le site de France Culture et on va continuer à évoquer ces municipales dans un instant, 8h21.
Les matins de France Culture, 7h-9h. Guillaume Herner.
Oui, initialement prévu le 22 mars, le second tour des élections municipales a été reporté au 28 juin pour des raisons, je crois, que vous connaissez. Si le second tour concerne seulement 14% des communes françaises, l'enjeu derrière le scrutin reste important. Il permettra de valider ou non des tendances observé il y a désormais près de 3 mois. Bonjour Martial Foucault.
Bonjour Guillaume Merlin.
Vous êtes professeur de sciences politiques et directeur du CEVIPOF et vous avez notamment publié « Maire au bord de la crise de nerfs, la démocratie locale peut-elle survivre ?» Avec tout d'abord une question, Martial Foucault. Le coronavirus, la pandémie, la crise et la période de confinement a-t-elle changé quelque chose à ce scrutin, à la manière dont on envisage aujourd'hui le second tour ?
Mais tout d'abord, comme vous l'avez rappelé, le calendrier est historiquement modifié. Jamais on n'avait vu une élection municipale se dérouler sur une période aussi longue, en tout cas pour les communes qui auront un second tour. Et ce qui a, de mon point de vue, exposé un problème auquel nous n'avions pas eu forcément l'occasion de réfléchir par le passé, c'est est-ce qu'une élection peut véritablement, telle qu'elle est définie par le code électoral, c'est-à-dire une élection municipale, c'est 2 tours séparés par 1 semaine, peut-on imaginer finalement que l'égalité devant le scrutin a été respectée pour ces listes et maintenant ces candidates et candidats qui vont se présenter le 28 juin et qui auront plus d'une semaine, près de 3 mois, pour faire peut-être une campagne silencieuse, invisible, ça a été rappelé tout à l'heure dans votre reportage. Un certain nombre de candidats, précisément, je dirais, les maires sortants, hein, qui disposent de ressources importantes et qui ont pu faire une campagne au nom, finalement, d'un intérêt national face à la crise du Covid, en se présentant souvent comme des supplétifs d'un État défaillant. Donc oui, il y a eu une inégalité pendant cette campagne municipale, en tout cas pour les 4900 communes qui seront dont les électeurs seront convoqués le 28 juin.
Alors, le rôle des maires pendant la crise de la pandémie, pendant la période de confinement, a été souligné. Est-ce que cela signifie que un grand nombre de ces maires sortants, parce que dans un quart des villes, les maires sortants ont obtenu plus de 40% au premier tour, sans réussir, bien entendu, à être élus dès le premier tour. Est-ce que ça veut dire que ceux-ci vont vraiment avoir une prime aux sortants, Martial Foucault ?
Oui, je dirais que en France, l'élection municipale est probablement celle où cette fameuse prime au sortant joue à plein. Et on l'observe pour cette élection municipale en raison précisément, je dirais, d'un retour à ce vieux clivage gauche-droite qu'on avait peut-être trop vite enterré pour la politique locale. La prime au sortant, elle se manifeste d'autant plus que les nouvelles formations politiques n'ont pas réussi à s'installer au plan local. C'est vrai pour La République En Marche, mais c'est vrai aussi notamment pour La France Insoumise. Donc oui, les maires sortants disposent ce qu'on appelle du vote personnel, c'est-à-dire que les électeurs vont se prononcer davantage sur les réalisations, sur d'ailleurs plus les réalisations que les programmes à venir, pour juger sur pièce la capacité de ce maire à poursuivre le travail effectué. Donc oui, la prime au sortant, elle est forte, et on l'a observé d'ailleurs pour les maires élus dès le premier tour. Ce sont à plus de 70% des maires sortants. Donc aujourd'hui, cette prime au sortant est probablement l'arme la plus décisive pour emporter un scrutin municipal.
Bon, alors s'il y a prime au sortant, est-ce que ça signifie, Martial Foucault, que l'enjeu de ces municipales est moindre, en particulier pour le parti présidentiel pour La République En Marche ?
Oui, on a peut-être effectivement peu discuté. Les événements ont rendu l'analyse du premier tour, j'allais dire presque invisible. Mais
voilà, ça n'a pas été la priorité du moment.
La République En Marche, rappelons l'objectif qui avait été fixé par le patron Stanislas Guérini, qui était d'avoir 10 000 conseillers municipaux sur, j'allais dire, près de 550 000 conseillers municipaux en France. Donc on pourrait dire que l'objectif était relativement bas, il était d'une certaine manière à portée de main. Or, on verra le 28 juin, mais je crois que cet étiage de 10 000 conseillers municipaux va être difficilement atteint par La République En Marche. Pourquoi ? Parce que, tout d'abord, ce parti a fait un score très très faible au premier tour. En moyenne, là où ils étaient présents, à peine 500 communes, environ 15% des voix. Donc, dans la majorité des communes, La République En Marche arrive en troisième position, ce qui a débouché, comme l'a rappelé tout à l'heure Frédéric Saez, à des multiplicités, à une diversité de stratégies d'alliance pour le second tour. Mais on voit que cette géométrie variable, elle penche quand même davantage à droite qu'à gauche, le cas de Nîmes étant un cas isolé. Oui, pour La République En Marche, on analyse souvent les élections municipales comme des élections dites intermédiaires. On profite de ce scrutin pour jouer une forme de référendum de l'action nationale. Bon, cette fois-ci, il n'y avait pas de sortant La République En Marche. Ce qui n'empêche pas d'analyser ce scrutin aussi comme un vote sanction. Quand on ne met pas en première position des listes La République En Marche, ça veut dire qu'on sanctionne aussi l'action nationale. Donc oui, les électeurs au plan local ont utilisé ce scrutin municipal pour envoyer un message assez clair vis-à-vis du président de la République et du gouvernement. Et donc, La République En Marche aura de grandes difficultés à s'installer, à installer ce maillage territorial dont on sait qu'il a beaucoup de conséquences pour les autres élections. Et puis ensuite, je dirais qu'on avait dit probablement que La République En Marche ne fera pas beaucoup de gains, mais ce qui comptera, c'est la portée symbolique de quelques villes gagnées, Paris, Lyon, Marseille. Bon, on voit qu'aujourd'hui, la situation est très compliquée pour les listes encore présentes dans ces grandes villes. Donc, on ne voit pas une grande ville tomber dans l'escarcelle de La République En Marche.
Bon, alors donc, une sorte de vote sanction, d'une part, Martial Foucault pour La République En Marche, et puis des alliances, principalement avec la droite, qui fait dire, par exemple, au journal L'Opinion, que La République En Marche est ni de gauche, ni de gauche. Qu'est-ce que ça veut dire comme stratégie politique, ou quelles conséquences pour le parti d'Emmanuel Macron que de s'allier à droite? Est-ce que c'est une manière de tenter de sauver les meubles pour ces élections municipales qui se présentent mal, ou est-ce qu'il s'agit d'une inscription stratégique plus durable?
Je dirais qu'il y a deux lectures. La première, elle consiste à observer ces alliances davantage avec les Républicains ou même formation Agir, si on pense à la ville de Rouen, par exemple, comme la poursuite d'une stratégie engagée depuis 2017, et on l'a vu lors des différents scrutins, d'occuper un espace politique que aujourd'hui La République En Marche considère comme grignotable, c'est-à-dire l'espace, je veux dire, le centre droit. On voit bien que ce gouvernement, sa politique et la composition, simplement, de ce gouvernement, vise à conquérir, à séduire encore davantage d'électeurs de droite, classique, qui finalement ont été très déçus par la séquence de 2017 avec le candidat François Fillon. Donc c'est véritablement cette stratégie très très claire d'occuper un espace très, très très large à droite. Et puis il y a une deuxième lecture que l'on peut avoir sur le ni gauche ni gauche, qui consiste au fond, et les élections municipales, je crois, ne seront pas un moment adéquat pour vérifier si aujourd'hui Emmanuel Macron est dans une stratégie finalement de réinstaller l'État social, comme on l'a vu pendant la crise Covid, de s'engager sur une on va pas dire une l'abandon de l'économie de marché, mais on voit bien qu'il y a durant ces trois mois la volonté de trouver une alternative à une économie uniquement dominée par les forces du marché. Bon, or, les élections municipales, on n'est absolument pas sur ces enjeux nationaux, voire mondiaux. Donc, c'est un petit peu l'aveu que pour La République En Marche, il faut vite tourner la page des élections municipales et s'engager sur les prochaines élections, certainement pas locales, parce que n'oublions pas que ensuite ce sont les élections sénatoriales, départementales, régionales, là où lorsque l'on n'a pas une assise politique forte, on ne peut pas espérer beaucoup de gains. Donc je dirais que d'ores et déjà, on se positionne dans la perspective de l'élection présidentielle de 2022.
Mais alors dans cette optique-là, est-ce judicieux de se positionner à droite, dans une droite modérée? Parce qu'il y a parmi les Républicains des candidats potentiels pour la droite modérée.
Oui, alors on a coutume de dire que dans une élection, il faut toujours choisir un seul adversaire. La stratégie d'Emmanuel Macron a été de désigner la présidente du Rassemblement national comme étant l'adversaire. Donc ça veut dire, au fond, abandonner l'idée même que l'adversité serait l'expression du Parti socialiste, d'Europe Écologie Les Verts ou de Les Républicains. Mais pour réussir cette stratégie, encore faut-il, d'une certaine manière, totalement vider l'espace électoral détenu par les Républicains pour convaincre ses électeurs que la meilleure formation, c'est-à-dire la formation la plus crédible pour l'emporter, serait La République En Marche devant les Républicains. Alors oui, il y a des candidatures, ou en tout cas il y a des candidats pressentis pour incarner cette candidature présidentielle pour les Républicains. Mais la facilité aujourd'hui pour La République En Marche, elle est donnée par un manque de coordination ou une faiblesse des oppositions, qu'elles soient de gauche ou de droite. Et pour les élections municipales, vous l'avez rappelé, dans toutes les villes, les stratégies d'alliance entre Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste ne se sont pas déroulées comme prévu. Donc il y a une vraie stratégie d'autonomie, parce que un parti comme Europe Écologie Les Verts, qui a fait de très bons scores dans des grandes villes, et ça c'est une nouveauté, parce que en moyenne, le score d'Europe Écologie Les Verts, là où il y avait des listes, est assez peut-être en deçà de leurs espérances, hein, autour de 13%. Donc l'autonomie d'Europe Écologie Les Verts, l'autonomie du Parti Socialiste et les grandes difficultés à trouver une sorte de coordination de la gauche des gauches facilitent d'une certaine manière la stratégie du président de la République en vue de 2022 d'occuper plus largement un espace qui irait, je dirais, du centre-gauche jusqu'à une droite.
Et les écologistes, assiste-t-on ou va-t-on assister plus exactement à une poussée des écologistes, Martial Foucault ?
Pour le second tour des municipales ou
pour le second tour des municipales, absolument.
Pour le second tour des municipales, oui, il y a des villes pour lesquelles je dirais les dés sont déjà jetés. Si on pense à notamment au maire sortant de Grenoble, Monsieur Piolle, il y a d'autres villes que Europe Écologie Les Verts peuvent conquérir. Je pense à Strasbourg, on pense à Bordeaux. Il y avait l'ambition à Rouen, mais les choses une alliance PS et Europe Écologie Les Verts a été nouée. Donc oui, il y aura, s'il n'y a pas de conquête nette, il y aura une présence dans les oppositions municipales très forte d'Europe Écologie Les Verts. Et ça, je dirais que c'est probablement une très bonne nouvelle pour le ou la candidate Europe Écologie Les Verts en 2022. Mais un point qui me semble important, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez parlé pendant cette séquence municipale 2020, on a vu la floraison de listes dites citoyennes. Alors, effectivement, le scrutin fait qu'il faut au moins 10% pour être présent au second tour. Beaucoup d'entre elles n'ont pas pu se maintenir. Mais derrière ces listes citoyennes, je voudrais insister sur un point, c'est que finalement, ce n'était pas un grand moment de la démocratie participative municipale. Derrière ces listes citoyennes, se dissimulaient quand même très souvent des listes partisanes, notamment la France Insoumise. Et je dirais qu'on a peut-être pensé qu'on avait atteint, après cette séquence crise gilets jaunes, grand débat national, qu'il y avait une aspiration très forte des citoyens à s'emparer du fait politique local. La réalité, telle qu'on peut l'observer, c'est que les formations partisanes ont repris le pas sur cette séquence, notamment en vue du second tour.
Et si l'on essaye de voir maintenant les villes qui sont encore des villes incertaines, alors il y a environ 100 villes sur un peu moins de 500 qui aujourd'hui ont, disons, un scrutin compliqué à trancher. Il y a par exemple Marseille, Lyon, Bordeaux. Est-ce qu'il y a des clés pour ces scrutins à suspense, Martial Foucault ?
Je crois qu'il n'y a aucune grille de lecture qui pourra s'imposer pour comprendre le dénouement de ces villes aujourd'hui très incertaines. Pourquoi ? Parce que prime avant tout les enjeux locaux. Et on voit bien, ça a été rappelé, que les conditions d'alliance, de désistement d'une liste répondent bien souvent à une forte autonomie des candidats qui ne veulent pas être finalement, ne veulent pas que leur choix soit dicté par les organisations politiques nationales. Il y a un deuxième élément qui a été peu souligné, je trouve, pendant ce semblant de campagne municipale, mais qui est une clé de lecture pour comprendre ce qui se noue non seulement autour de ces alliances et puis aussi le scrutin, c'est je dirais une sorte de troisième tour des municipales. Ce sont les élections des structures intercommunales, communautés d'agglomération, métropole. On en parle très très peu, et d'ailleurs je crois que c'est un vrai problème politique. La légitimité démocratique de ces structures aujourd'hui fait cruellement défaut, puisque c'est un suffrage indirect. Les citoyens n'élisent pas directement les représentants de ces structures intercommunales, et qui, prenons le cas de Lyon, le cas de Strasbourg...
Le cas de Lyon est assez intéressant, d'ailleurs, parce que là, pour le coup, le fait que Gérard Collomb, qui avait été investi par La République En Marche, a conclu un accord avec les Républicains, désavoué par La République En Marche. Bon, ça crée une situation qui est malgré tout assez inattendue.
Oui, mais en fait, cet exemple est assez révélateur de ce qui se produit dans des moyennes et grandes villes. C'est-à-dire que la discussion ne porte pas sur les places ou les positions au sein d'un conseil municipal, mais elle porte aussi sur les positions au sein des structures intercommunales. L'ambition pour Gérard Collomb d'être à la tête de la métropole de Lyon n'est pas totalement anodin dans cette stratégie de désistement au profit du candidat Les Républicains. Et on retrouve ces mêmes logiques dans beaucoup de villes. S'il n'y a pas eu la possibilité d'une fusion des listes Europe Écologie Les Verts PS à Strasbourg, à Lille, c'est bien parce qu'il y a aussi des enjeux autour de la métropole. Et on observe depuis quelques années, aujourd'hui, la montée en puissance de ces métropoles qui ne restent au fond que des établissements publics au service des municipalités, mais elles souffrent à la fois d'une vraie crise de légitimité démocratique. Elles prennent de plus en plus d'importance, ont de plus en plus de compétences, et dans l'ouvrage que j'avais consacré à ce malaise des maires, c'était véritablement la très grande difficulté pour les maires de vivre une forme de dépossession de leurs compétences issus du suffrage universel face à ces structures intercommunales. Donc ça, c'est un phénomène qu'il va falloir probablement prendre à bras le corps et trouver un positionnement et trouver une ossature politique légitime pour ces structures qui ont vocation, et on a pu le voir pendant la crise Covid, à prendre des initiatives parfois beaucoup plus amples que ce que les municipalités ne peuvent le faire.
Et alors, que dire de Paris ? Parce que là, c'est une situation très particulière.
Oui, situation particulière parce que, bon, à la fois, le scrutin d'arrondissement rend les stratégies parfois autonomes. On le voit pour, par exemple, le candidat dissident Cédric Villani dans le 14e arrondissement. Mais plus généralement, on parlait tout à l'heure de la prime au sortant. On voit bien que pour Paris, ici, la prime au sortant a joué nettement en faveur d'Anne Hidalgo. Et puis, on a bien vu que, d'une certaine manière, après les élections européennes à Paris, on avait vu se dessiner une nouvelle carte électorale de Paris où il semblait que le mouvement La République En Marche avait totalement dominé des arrondissements qui jusqu'alors votaient plutôt à gauche ou très à droite. Pour une élection municipale, on redécouvre que finalement il ne suffit pas de porter l'étiquette La République En Marche ou tout autre parti pour anticiper et pour espérer la même dynamique électorale. Non, les électeurs à Paris et dans les très grandes villes, en général, tiennent compte aussi des programmes et des propositions. Or, aujourd'hui, on a pu voir, notamment à Paris, que si La République En Marche n'a pas obtenu les scores qu'elle le souhaitait, alors qu'on pourrait dire que la sociologie de l'électorat parisien leur était favorable, bien, c'est précisément qu'il faut pouvoir incarner une campagne. Et puis, certainement que la situation de La République En Marche à Paris après le départ de Benjamin Griveaux n'a certainement pas aidé à incarner une forme de crédibilité du programme politique de La République En Marche.
Pourquoi, enfin, comment expliquer cette succession avec effectivement Benjamin Griveaux, bon là je crois qu'il est inutile de revenir sur cette histoire. Agnès Buzyn qui semble là aussi en difficulté. Il n'y avait pas de candidat naturel autre qui se dégageait. Bref, comment expliquer cette situation qui est compliquée pour La République En Marche?
Mais tout d'abord, je dirais que c'est probablement ce qu'on pourrait appeler une forme de crise d'adolescence d'une jeune formation politique. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ce dont souffre avant tout La République En Marche, c'est la découverte du rôle d'une formation politique. Il n'y a pas véritablement de coordination. On voit bien que cette campagne municipale a été préparée un peu dans la précipitation. On n'a pas observé ce qui s'était produit en 2016-2017, ces fameux comités locaux de marcheurs. Là, pour ces élections municipales, ça ne s'est absolument pas reproduit. Donc, faire campagne simplement, même en cachant le logo La République En Marche, ne suffisait pas pour mobiliser. On oublie une chose, et d'autres collègues ont pu travailler sur ce sujet, c'est que aujourd'hui, cette défiance vis-à-vis des partis politiques produit aussi des effets désastreux, notamment sur le militantisme. Or, La République En Marche s'est toujours défendue de ne pas être un parti politique, tantôt un mouvement, tantôt une formation. Eh bien, quand on désincarne à ce point ce qu'est l'essence même d'une formation politique, on ne peut pas s'étonner qu'au plan local, on a besoin de relais locaux. Et si militants, sympathisants ne sont pas présents, il devient très compliqué de pouvoir envisager des gains. Mais je voulais aussi, si vous m'autorisez, insister sur un point sur cette élection municipale, parce que on a beaucoup parlé de la participation historiquement basse. Pour cette élection du premier tour, je crois que on risque dans les prochaines années d'observer un phénomène lié à la décision de maintenir ce premier tour. On a un taux de participation très bas, des candidats ont été élus dès le premier tour avec plus de 50% des suffrages exprimés, alors que le taux de participation était parfois de 25-30%. Ce qui veut dire que on risque d'observer une forme de crise de légitimité dès qu'une première anicroche ou un premier couac va se produire pour un maire sortant. On lui rappellera qu'il a été élu avec seulement un quart des suffrages exprimés parce que les électeurs n'ont pas pu se rendre dans l'isoloir. Et je crois que pour la démocratie locale qui reste encore en France une élection à la fois appréciée et pour laquelle on se mobilise, avoir entériné le principe d'une élection avec un si faible taux de participation et des scores exprimés 50% dès le premier tour ou plus risque de produire quelques dégâts sur la qualité de cette démocratie locale.
Et oui, et effectivement, on peut imaginer que le niveau de l'abstention joue un rôle. On peut imaginer aussi qu'il y ait toute une série de recours, Martial Foucault, après cette élection.
Oui, et certains recours ont déjà été déposés et sont en examen au Conseil d'État de candidats qui ont été battus de quelques voix au premier tour, qui finalement revendiquent l'absence de sincérité du scrutin face à cette participation fortement différentielle, à la fois selon les territoires et puis selon certaines catégories sociales. Mais si je prends un exemple pour illustrer ce que je disais à l'instant, prenez la ville de Tourcoing, où le ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin, a été élu. Il a obtenu 60% des suffrages exprimés, donc majorité, mais avec seulement 25% de participation. Ce qui veut dire qu'en réalité, ce n'est que 15% des suffrages par rapport aux inscrits qui se sont portés sur la liste du ministre. Et on observe dans beaucoup d'autres communes, peut-être moins grandes que celle de Tourcoing, où le même phénomène s'est reproduit. Et je crois que là, il y a, de mon point de vue, en tout cas, un véritable risque ou une vraie crise de légitimité qui pourrait affecter la gouvernance et la mandature de ces nouveaux maires.
En conclusion, Martial Foucault, est-ce qu'il y a des villes ou des points particuliers à surveiller dans la perspective de cette élection municipale ?
Je dirais qu'il faut surveiller à la fois les trois grandes villes symboliques. À Marseille, la situation est très incertaine, indécise, avec la possibilité que la ville rebascule à gauche. À Lyon, je crois que l'enjeu porte effectivement sur la possibilité pour qu'Europe Écologie Les Verts puisse conquérir pour la première fois cette métropole. Et puis, n'oublions pas que de ce scrutin et des résultats dépendront d'une certaine manière la composition du Sénat à l'occasion des prochaines élections sénatoriales l'an prochain.
Merci beaucoup, Martial Foucault, maire au bord de la crise de nerfs. La démocratie locale peut-elle survivre? C'est votre livre, publié aux éditions de l'Aube. Dans quelques instants, on se retrouve avec mes camarades de la séquence TTC. Tout d'abord, la transition d'Hervé Gardette. Il est 8h46 sur France Culture.